the acquiring of this and it's come out of it.
Sommet ni de la radio, ni de la télé. C'est le stream avec Yann Terriot.
Épisode 851 du stream, j'aimerais saluer tous ceux qui nous écoutent en bas, la notification, vous êtes des milliers, vous êtes des millions, merci de me suivre, merci de m'écouter, merci de me soutenir, on commence ça avec du Triumph, la tune s'appelle Fight the Good Fight, un show d'urgence, un show de secours, on était supposé avoir un invité aujourd'hui, j'étais supposé de faire un Daily Buffer Podcast avec mon ami Vincent C, mais il peut pas se présenter, fait qu'on va se faire un petit stream, hein? Pas comme s'il manquait de sujet. C'est pas mal de choses dont on pourra parler. Oh yeah! Trion, je pensais pas que... Je me souvenais pas que c'était aussi progressif. C'est progressif du Trion. Un petit band rock progressif. Voilà. Bon mardi, mesdames et messieurs. Mardi 22 novembre 2022. Comment allez-vous? Qu'allez-vous faire aujourd'hui pour faire avancer votre projet? Qu'allez-vous faire pour faire avancer votre projet? Il faut faire au moins 5 minutes! 5 minutes pour faire avancer son projet. Et ça, c'est un conseil de... Yeah! Win! Nya, nya. Un conseil de... Yeah! Win! Nya, nya. Aujourd'hui, j'étais supposé de recevoir mon ami Vincent C. Il avait remis le premier coup parce que... Il avait remis le premier coup parce que... Quand il est arrivé pour partir pour venir chez nous... Quand il a vu, il a probablement tapé mon adresse. Quand il a vu que c'était à 2 heures, il a fait comme, hey Chris, t'es à 2 heures. Puis j'ai fait, ben oui, oh, sacre affaire, je savais pas. Fait que lui, il avait pas prévu ça dans son horaire de faire 4 heures de route, genre 2 heures venir, 2 heures à retourner. Fait que j'ai fait, on va remettre. Il n'y a pas de problème. Mais là, pauvre lui, il a des troubles médicaux ce matin. Fait que, puis là, ben, il était sur le bord de venir, il m'a écrit, puis il dit, je suis pogné, il y avait des douleurs, puis toute la quête. J'ai fait, ah, pauvre toi. Fait qu'on a remis à vendredi. Vendredi 25 novembre, mesdames et messieurs, je vais recevoir mon ami Vincent C, ça va être en après-midi. Vendredi à 14h. Fait que là, ça me prenait un show de secours! Quelque chose pour remplacer, là, Colin.
Prends ton arme, le chinois.
Oui! Vu que j'avais tout fait mon setup, puis tout, j'ai fait, ah, oh, come on, Yann. Si tu te donnes un peu, là, tu vas pouvoir faire un petit stream. Hein? C'est pas comme si tu manquais de sujet. Hein? Fred Dubé, Julien, il s'est passé des affaires là-dedans. On va en parler un petit peu. Bon, c'est un super beau week-end. J'ai enregistré 2 sous-écoutes, 2 bons sous-écoutes. Et Chris, il y a un sous-écoute. Salut avec Michel Kunta et Dominique Bottex. Oh my God! C'est probablement l'anecdote la plus incroyable qui a été racontée à sous-écoute, je pense. Le gars raconte, Michel Kunta qui est la voix du Centre Bell. C'est lui qui a ouvert le Centre Bragg. Qui a présenté Mike Patterson, puis qui a comme animé le Centre Bragg, tu sais. Puis il raconte une histoire, il a fait face à un ours. Puis pas au sens figuré, puis pas au sens cartoon. Non, il a vraiment fait face à un ours. Pis c'est l'histoire la plus... Hostie, c'est une histoire complètement sautée. Il faut absolument... Que vous ayez si t'es Patreon, là, ça va sortir bientôt. Je suis en train de les préparer, je suis en train de les outputter. On va mettre ça en ligne. Mais quelle histoire! Quelle histoire! Alors voilà. Fait que j'ai enregistré ça. C'était 2 bons shows. L'autre, c'était avec Matt Duff, Tommy Néron, qui est comme une étoile montante sur TikTok. Il y a beaucoup d'étoiles montantes sur TikTok, hein? C'est populaire, cette plateforme-là. C'est fou, il y a plein de monde inconnu qui sont soudainement des vedettes. Je me sens tellement dépassé. Je suis là, je suis sur TikTok, là, je suis ça, je regarde ça. Puis je m'intéresse à ça, mais je me sens dépassé. Je me sens totalement dépassé. Ça a donné un bon show. Matt Duff, Tommy Néron. Puis, j'ai commencé les deux premiers épisodes, je pense les 2 ou les 3 premiers épisodes de The Crown. Ça, c'est la seule série. Mon hormone du bonheur. Moi, mon hormone du bonheur, on a de la misère à trouver quelque chose qui nous unit au plan télévisuel ou cinématographique. Fait que choisir un film ou choisir de quoi à regarder à la télé, c'est tout le temps compliqué parce que ma blonde, on regarde tellement pas les mêmes affaires. Puis c'est pas quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au cinéma ou à la télé. Fait que quand elle tombe sur de quoi qui est bon, elle aime ça, mais sinon le reste, c'est pas une zappeuse, ma blonde, tu sais. Puis elle s'intéresse pas. C'est pas on n'a pas les mêmes intérêts à ce niveau-là. Mais il y a une série qui nous unit. Une série qui nous unit et qui est unanime dans mon couple, c'est la série The Crown. Puis là, ben, ils viennent de sortir des nouveaux épisodes. Puis on s'attendait pour pouvoir les regarder. Elle est venue me rejoindre au condo. Je suis monté au condo vendredi. Samedi. Elle est venue me rejoindre. Puis on a regardé deux, trois épisodes de The Crown. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de regarder The Crown. Une bonne série. C'est tellement... ma blonde, elle aime ça pour l'aspect historique. L'aspect historique de ça, tu sais, la monarchie. Elle s'intéresse à la monarchie à cause de l'aspect historique, l'aspect, tu sais... Tout ce qui entoure ça. Moi, c'est l'aspect gossip. C'est une télé-réalité. La monarchie pour moi. Fait que j'aime ça suivre ça. Mais tu sais, j'aime ça suivre ça dans des films, des séries télé, des. Je suis pas quelqu'un qui va lire beaucoup là-dessus. Fait que c'était cool, on a regardé ça. On a regardé ça, il n'y a plus grand-chose qui me tient accroché ces temps-ci à la télé. Fait que ça faisait du bien d'avoir de quoi... J'ai commencé The Sopranos. Ah ouais, c'est vrai, j'ai commencé The Sopranos. Puis j'aime ça. J'aime ça, puis je suis comme content. Avec ça, j'ai du contenu, j'ai de quoi toffer longtemps. Là, j'ai de quoi, il y a quoi? Il y a 8 saisons de Sopranos. Fait que là, tu sais... Ça m'assure du divertissement télé pour un petit bout. Hey, j'ai commencé à streamer, à gamer. J'ai des jeux de course. Je trippe sur les jeux de course ces temps-ci. J'ai commencé à jouer à Asphalt 9. Asphalt 9, un jeu sur PC. Qui est vraiment cool. C'est un peu comme... tu sais, c'est des courses qui sont un peu irréalistes. Tu sais, là, c'est pas... tu sais, c'est comme... C'est pas très cohérent. Tu sais, il y a comme, tu peux faire des 360, puis là, t'as de la nitro, puis toute la patente. Là. Tu sais, c'est pas comme les jeux de course, admettons, où est-ce que tout est réaliste. Comment ça accélère, comment ça drift, comment c'est... Tu sais, non, ça, c'est exagéré. C'est comme si c'était Fast and Furious, là, tu sais. Mais tu vois-t-il que j'ai streamé ça sur Twitch, puis je me suis bien amusé. J'ai fait ça vendredi soir, puis j'ai fait ça samedi dans l'après-midi. Je suis rendu un gamer. Je game. Comme les jeunes. Comme les jeunes qui game. Moi, je joue à Fortnite. Avec mon petit frigidaire transparent. Avec du gourou. non, c'est mon petit frigidaire de Monster. Tu sais, les drinks Monster. Enfin, bref, voilà. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait ce week-end. Fait que là, puis là, ben, vu que Vincent, il vient pas aujourd'hui. Ben, après le stream, je vais probablement me reposer. Je vais peut-être gamer. Je pourrais gamer. On y va avec du public image, mesdames et messieurs. La tune s'appelle Rise. De ça, on va se parler de M. Fred Dubé. Et M. Julien Lacroix, encore.
Prends ton âme, le chinois. I could be wrong.
Lick Image. Imagine terminer une si bonne tune comme ça. Quel gâchis. Quel gâchis. On l'a tout vu. Je ne sais pas si tout le monde l'a vu. Pour moi, c'est grave. C'est quelque chose que. C'est quelque chose de malaisant, je trouve. Tu sais, on a parlé de Julien Lacroix. On a parlé de, tu sais, comment qu'on est forcé socialement de se positionner. Faut les croire ou est-ce qu'on les croit ou est-ce que est-ce qu'on penche plus du côté de la présomption d'innocence, tout ça, c'est un débat interne. T'sais. On cherche notre place, puis on cherche le juste milieu, puis on veut que ça se règle, puis on veut. Je pense qu'on le sait tout là, qu'il y a un problème. Le MeToo se passe pas. Tu peux pas te denier le MeToo. Tu peux pas te denier qu'il y a un problème, admettons, comme les changements climatiques. Là, t'sais. Faut être un peu la tête dans le sable si tu fais ça. Fait qu'on essaye de se positionner. On veut tout régler le problème, I guess, puis on essaye de se positionner. Puis, tu sais, quand Le Devoir a fait le premier article sur Julien, la manière qu'ils l'ont écrit, on a tout embarqué. On a tout fait comme « Ah, quel trou de cul de Christ! 9 victimes! 9 victimes, quand même! » Puis, tu sais, comme je disais dans les épisodes précédents, moi, c'était la force du nombre qui m'avait comme convaincu. J'ai fait, ça se peut pas qu'il y ait 9 malentendus, là, quand même. Tu sais? La manière qu'il raconte les histoires, la manière que les histoires sont citées dans cet article-là, ça fait vraiment penser que Julien avait des comportements très graves. Sauf qu'il y a il y a quelques victimes, des présumées victimes, des gens qu'on avait qualifiés de victimes, qui sont sortis et qui ont fait « je suis pas à l'aise avec le terme victime ». Je me trouve pas une victime. J'ai raconté mon histoire parce que on m'a un petit peu induit à le faire. On m'a un petit peu convaincu de le faire. J'ai subi une pression pour faire ça. Mais moi, je me considère pas comme une victime. Je considère pas que j'ai été violé. Fait qu'il y a quelques victimes comme ça. Mais il en reste quand même 3-4 qui ont pas donné leur avis. Qui sont pas sortis. Puis que j'imagine que soit qu'ils tiennent à leur histoire ou qu'ils veulent pas sortir parce qu'ils veulent pas. Ils veulent pas le backlash de ça. C'est propre à eux autres, t'sais. Fait que Julien n'est pas disculpé, là. T'sais. Julien est encore. Il y a encore des trucs pas clairs à propos de Julien. Mais quand même, tu sais, tant qu'à le juger, j'aime mieux le juger sur. Tu sais, on veut le juger pour ce qu'il a fait et non pas pour ce qu'il a pas fait, tu sais. Mais là, ça a créé beaucoup de remous. Parce qu'il y a du monde qui accepte pas la version des filles qui se rétractent. On peut-tu appeler ça se rétracter? Ouais, c'est ça. Il y a des filles qui acceptent pas ça. Qui disent, ces filles-là, c'est évidemment, tu changes d'avis au bout de 5 ans, au bout de 2 ans, 3 ans. Tu peux changer d'avis. Puis là, ben, tout le monde se prononce comme si ces filles, comme si ces filles-là existaient plus. Non, non, c'est pas ça qu'ils veulent dire. C'est pas ça qu'ils veulent dire, puis ils ont été endoctrinés, puis ils ont... Fait que là, faut respecter les présumées victimes quand ils veulent pas dénoncer à la police, parce que c'est leur propre démarche. Faut respecter le fait qu'ils ont pas dénoncé, puis ça je le comprends, puis je suis tout pour ça. Mais quand les filles se prononcent, Puis quand que les filles disent « Ben moi, je suis pas une victime », ah, soudainement, il y a du monde qui s'érige puis qui disent « Moi, je dis qu'elle a plus le droit à sa voix, c'est moi qui va décider. Non, tu restes une victime. » Fait que ça a créé beaucoup de remous. Ça a fait jaser, ça. Tu sais? L'histoire appartient pas juste à Julien, elle appartient à tout le monde. Tu aurais dit que il y a une de... Audrey-Anne Dugas, qui est une des présumées victimes de Julien, je pense. Je me souviens plus. Les histoires sont tellement... Il y a des victimes, mais en même temps, il y a des gens qui sont à la source des listes, puis les, tu sais, les espèces de listes, puis les mouvements pour les prochaines, puis tout le kit. Tu vois-t-il que était dans la balado, elle a été interviewée dans la balado, puis elle a été interviewée dans l'article de la presse. Puis elle dit, puis là-dedans, elle paraît mal un peu. En fait, la balado, puis cet article-là font mal paraître un peu cette personne-là. Puis Rosalie aussi paraît mal là-dedans. Ils ont l'air de gens qui ont mis de la pression inutilement pour faire sortir des victimes, des présumées victimes qui, en fin de compte, l'étaient pas. Fait que ça fait mal paraître un peu, tu sais. Puis c'est autant l'article nous disait, autant l'article dans l'article, puis même dans la balado, tu sais, les auteurs font vraiment des efforts pour essayer de dire on remet pas en doute le travail de la journaliste, on remet pas en doute le mouvement MeToo, on remet pas en doute les versions des victimes, puis on remet pas. Mais en même temps, c'était pas mal ça, là. Il remettait un peu en doute le travail journalistique qui avait été fait. Le travail, il remettait en doute, disons, la pression sociale, puis tout ça, puis, tu sais. Fait que là, le Devoir est sorti. Un petit peu après, pour faire un article. Il y a eu à peu près 15... Tapez Julien Lacroix dans la presse. Puis tapez Julien Lacroix dans le Devoir. Dans les derniers jours, là, il doit y avoir au total 15 articles. Il y a des articles d'opinion, il y a des... Puis nous autres, en tant que lecteurs, en tant que société... Parce que ça se passe là, c'est là, la boule est là. Et entre ces deux médias-là. Tout s'est passé là. Puis il y a le 98.5, parce que Marie-Ève Tremblay, elle a fait cette balado-là pour le compte du 98.5. Mais tu vois-t-il qu'Audrey-Anne Dugas, elle a soulevé un fait qui fait mal paraître tout ça, qui rajoute une couche de malaise. Parce que c'est déjà que... Un journal fasse un travail pour remettre en doute. Autant ils disent non, on ne remet pas en doute. Pour remettre en doute le travail d'un autre journal, c'est déjà tordu. Mais là, voici qu'il y a une couche supplémentaire à ça dans tout le malaise. Audrey-Anne Dugas a sorti un commentaire. C'est Marie-Ève Tremblay. En fait, c'est la nouvelle blonde de Julien Lacroix, la blonde actuelle de Julien Lacroix, celle qui le supporte là-dedans, celle qui fait partie de la balado. Est-ce qu'elle explique que c'est rendu invivable pour le couple, c'est rendu invivable, ils peuvent plus se présenter en public, puis ils veulent reprendre, ils aimeraient ça avoir une vie normale pour pouvoir élever leur enfant. Mais cette personne-là souhaite bonne fête à Marie-Ève Tremblay, qui est la journaliste qui a fait la balado. Bonne fête, ma belle, je pense. C'est ça qui est écrit. Avec trois petits cœurs. Puis t'as Marie-Ève Tremblay qui répond avec trois petits cœurs. Ça paraît mal. Ça paraît mal. C'est très incestueux, là, quand tu regardes ça, là. Fait que là, on reprend du début. T'as Le Devoir qui fait un travail. Qui fait un article sur Julien Lacroix. L'accusant de prédateur sexuel. Il y a des récits là-dedans qu'on tu sais, des récits de viol, puis tout le kit, là. T'as La Presse qui vient par après. Un peu nuancé, tout ça. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de ces filles-là qui reviennent un petit peu sur ce qu'elles ont dit, qui disent « Moi, je me considère pas comme une victime. J'aurais pas dû être considéré parmi les neuf. Je ne suis pas une victime. » Cet article-là de La Presse fait partie d'un travail, c'est un travail conjoint avec une balado qui a été faite par Marie-Ève Tremblay. Donc, c'est Isabelle Haché et Marie-Ève Tremblay qui ont fait l'article et la balado conjointement. Puis qui parle, qui parle de toute cette histoire-là, puis qui détruisent un petit peu, ben pas détruisent, mais disons, qui nous fait nous questionner sur la culpabilité de Julien. Est-ce qu'il est aussi coupable qu'on pense? Dans notre tête, on fait, il est-tu aussi coupable qu'on pense? Ça remet en doute le travail. Mais là, on s'aperçoit que Marie-Ève Tremblay a des liens avec la nouvelle blonde de Julien Lacroix, qui a tout à gagner d'essayer de disculper, mais de, tu sais, fait qu'on se demande, tu sais, on est en droit de se demander, c'est à partir de où toute cette histoire-là? On est en droit de se demander s'il n'y a pas un travail pour essayer de redorer l'image de Julien Tremblay? Viol proxy de sa blonde, tu sais, qui connaît la journaliste. C'est tout ça est wrong. Tout est wrong. Le premier article du Devoir, je m'aperçois qu'il est wrong. Le deuxième de La Presse est wrong. Puis là, cette balado-là, puis les liens, c'est wrong aussi. Puis je l'ai écrit sur Twitter. Je l'ai écrit sur Twitter. J'ai dit, t'as La Presse qui fait un travail pour remettre, qui questionne le travail du Devoir, le Devoir qui répond à La Presse, et puis là, t'as ça. T'as Marie-Ève Tremblay qui a des liens avec une personne qu'elle interview dans son balado. Puis j'ai dit, tu sais, j'ai écrit en dessous, on subit chacun, tout le monde subit une pression en ce moment, une pression de choisir son juste milieu, de trouver la bonne façon de gérer ça, de trouver son de trouver le centre, puis la de prendre position. On est forcé à prendre position. Je pense que c'est ça que j'ai écrit. J'ai écrit « Socialement, on est forcé à prendre position, à trouver notre juste milieu. » Mais tu sais, quand c'est basé sur un travail journalistique qui a été mal fait, puis que tout le monde se remet en question, je sais pas si vous comprenez, mais moi, en tant que lecteur, pis en tant que personne, en tant que citoyen, qui se fait mettre de la pression, ben je me sens un petit peu manipulé. Je me sens un petit peu beaucoup manipulé. Audrey-Anne Dugas a dit, tu sais, je voulais porter plainte à La Presse. Mais elle a dit, je me suis aperçu que le boss de La Presse, c'est le conjoint de Isabelle Haché. Marie-Ève Tremblay, c'est la conjointe de Patrick Lagacé. Hey, c'est tordu, là. C'est correct, là, tu sais, il y a ça. Y a, dans les radios puis dans les newsrooms, ça se peut, là, tu sais, là. Mais tu te gardes une petite gêne. Tu sais, comme, admettons, je pense que Patrick Lagacé, il a reçu Marie-Ève Tremblay pour parler de la balado. Tu te gardes une petite gêne. Ils en ont parlé toute la journée. T'es pas obligé de recevoir ta blonde, Patrick. T'sais? Tu te gardes une petite gêne. Une chance, ils l'ont disclose, par exemple. T'sais. Mais ils n'ont jamais disclose, ils n'ont jamais mentionné qu'il y avait des liens. C'est Audrey-Anne Dugas qui a sorti ça. T'sais. Là, quand j'ai écrit ça, j'ai trouvé ça gentil de sa part. Marie-Ève Tremblay qui m'a. J'ai désactivé les commentaires. Moi là, je lance plus de débat, c'est plus un débat. Moi, je dis ce que j'ai à dire. Puis ce que le monde en pense, je m'en calisse. Puis que le monde le lit ou pas, que le monde me lit, que le monde s'intéresse à ce que je dis ou pas, je m'en contre-torche, je le dis. Puis quand j'ai pas le goût d'en débattre, quand j'ai pas le goût que ça devienne, quand je sens que ça peut être conflictuel, je désactive les commentaires. Les gens peuvent pas me répondre. Parce que je suis de même, calice, je suis un asti de trou de cul. Range ton âme,
le chinois!
Puis Marie-Ève Tremblay, elle m'a écrit en privé. Puis elle dit, j'ai jamais eu des liens. Elle dit, on a eu une petite relation professionnelle. Pour un contrat, mais on n'a jamais été prendre une bière, on n'a jamais fait de sortie ensemble, aller au restaurant, se tenir ensemble, se fréquenter. Elle m'a écrit ça en privé, parce qu'elle ne pouvait pas répondre publiquement. Elle a dit, c'est un bon fight parmi les 500 que je reçois annuellement. Mais je m'excuse, mais... Des petits cœurs, tu sais. Hey, bonne fête, beauté. J'écris. T'écris pas ça. Quand tu tutoies quelqu'un, un journaliste, là, quand il est rendu à tutoyer quelqu'un, ça veut dire qu'il y a une proximité peut-être un petit peu trop courte. Je sais pas comment dire ça, là. Une proximité trop grande. Ah, je pense que c'est ça. Une proximité trop grande. Tant qu'à moi. C'est très tordu, puis j'ai beaucoup de misère. Je comprends pourquoi les complotistes sont rendus cyniques face aux médias. C'est des trucs de même qui fait que t'es cynique. Éthiquement, là, ça se fait pas. Ça se fait pas. Ça se fait simplement pas. C'est tordu au bout. Ça veut dire que... C'est tordu au bout, mais attention. C'est tordu au bout parce que ça a été présenté comme un travail conjoint, un travail journalistique conjoint entre la presse et le 98.5. Tout est dans la manière d'avoir été présenté. Si Marie-Ève s'était pris autrement, je sais que la différence techniquement, il n'y en a pas de différence techniquement. Vous allez voir. Mais vous allez comprendre c'est quoi la différence. Vous allez comprendre ce qu'elle aurait dû faire, ce que Marie-Ève aurait dû faire, ce que la presse, puis ce que le 98.5 aurait dû faire. C'est au lieu de présenter ça comme un balado et un article, au lieu de présenter ça comme un dossier conjoint, il aurait dû présenter ça autrement. Il aurait dû présenter. Le balado aurait dû être présenté comme un documentaire. Un documentaire, tu peux te permettre d'avoir une opinion, tu peux te permettre d'avoir des liens, tu peux te permettre d'avoir une direction, d'avoir un billet, si on veut. Michael Moore, il a clairement un billet. Quand il commence ses documentaires, il y a un billet. Tu peux passer un message par un documentaire. Tu peux, tu sais, oui, c'est proche du journalisme, puis t'as quand même un certain éthique. De dire la vérité dans un documentaire, mais t'es pas tenu, disons, à la même impartialité qu'un travail de journalisme. Fait que si Marie-Ève Tremblay avait présenté ça comme une série documentaire, balado, si le 98.5 avait présenté ça de cette façon-là et que l'article de la presse était un article sur cette balado-là, et non pas un article conjoint, un travail conjoint, un dossier conjoint. Là, j'aurais compris. Là, je trouve qu'au niveau de l'éthique journalistique, ça aurait mieux passé. Mais pour vrai, ça paraît mal. Ça paraît très mal. Ça nous rend cyniques. Parce qu'on le voit ce qui se passe aux États-Unis, tu sais, toute la comment que les médias sont calistes. Tout le monde est pour du clic, puis Dieu. On veut être informé. Ça existe-tu un média qui a pas besoin de faire du divertissement puis de changer, de transformer ça en divertissement puis en clic? C'est tellement délicat, en plus, l'histoire de Julien. C'est délicat, l'histoire de Julien. Parce que Julien est devenu un symbole du MeToo. Mais je sais plus quoi penser, moi, de Julien. J'ai été critique envers Julien. Mais je sais plus quoi penser. Puis je m'aperçois qu'il y a une espèce de petit pissing match entre des médias. Puis qu'il y a... Il y a quelque chose d'incestueux entre le média et certaines personnes, des intervenants, dans ce dossier-là. Ça paraît mal. Mais bon. Puis le pire, c'est qu'ils n'en ont pas fait. Moi, elle a soulevé ça. Hey, imagine comment elle doit se sentir. Parce que je trouve que c'est quelque chose qui aurait dû être adressé. Tu sais, à ce stade-ci, là, ça aurait dû être adressé. Publiquement. Et non pas juste en damage control, tu sais. Ils n'en ont pas parlé, ils n'en ont fait aucune mention à tout le monde en parle. Aucune mention. Je trouve que ça méritait d'être demandé comme question, ça. Puis le 98.5 n'a jamais rectifié leur patente. Moi, lundi, je m'attendais à ce que Paul Arcand en parle. Zéro. Hein? Il est quand même à l'aise, hostie. Il est quand même à l'aise d'en parler. Un petit peu déçu. Un petit peu déçu. On finit ça, mesdames et messieurs. Je voulais parler de Fred Dubé. Ah, oh, fuck it. Fuck it. Il s'est fait pogner, Fred. Il s'est fait pogner, Fred. That's it. Hein? Petit pointeur du doigt. Il y en a qui vont s'en réjouir. Moi, je suis juste triste qu'il y ait des victimes là-dedans. Deux victimes. Catherine Étier. Tabarnak, c'est tellement une bonne personne en plus. Oh my God, on va-tu s'en sortir un moment donné? Calisse! C'était ça, mesdames et messieurs. C'était une petite réflexion sur les médias, sur le MeToo, tout ça. C'était ça pour aujourd'hui. Être chaud de secours. Hein? Parce que mon ami Vincent C, il a des troubles médicaux. On le reçoit, oubliez pas, je reçois Vincent C vendredi. Vendredi, 14h probablement, je vais vous tenir au courant. Et pour le reste de la semaine, ben je sais pas, je vais peut-être gamer. C'est bon, j'ai aucune idée. Ouais, peut-être prendre ça easy aussi, hein? Ah, hey, bonne journée toi. Winding your way down on Baker Street. Lighting your head and dead on your feet well. Another crazy day, you'll drink the night away and forget about everything. This city desert makes you feel so cold. It's got so many people, but it's got no soul. And it's taking you so long to find out you were wrong when you thought it held everything. You used to think that it was so
has a light in his place. He opens the door, he's got that look on his face, and he asks you where you've been. You tell him who you've seen, and you talk about it.